Nous serons ensemble de 20h à 22h tous les soirs. 20h, 22h, c'est comme 2022, oui, oui, oui. Et à cette heure-ci, dans 223 jours, nous connaîtrons les deux qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Le nouveau magazine de Ruth Elkrief a démarré hier soir sur LCI, chaîne info, dont la journaliste œuvra au lancement il y a 27 ans. Retour dans le giron du groupe TF1, donc, après une parenthèse d'une quinzaine d'années passées à BFM TV. BFM TV, devenu leader du secteur. Aujourd'hui, une troisième concurrente privée, CNews, assaille ses deux aînés. Rupture de ton et transgression, Ruth Elkrief a connu déjà les années folles de BFM TV, partie à la conquête du PAF. Ce qu'on voudrait comprendre ce matin, c'est en quoi le paysage politico-médiatique aurait véritablement muté, s'il a muté d'ailleurs. Lorsqu'on se plonge dans les archives de la présentatrice, on trouve des critiques de tous bords politiques, des candidats à la présidentielle qui dénigrent les journalistes, et oui, déjà, des foules qui les invectivent, et oui, déjà, les journalistes politiques aguerris voient-ils le même cirque se répéter inlassablement à l'approche des grandes échéances.
L'instant M, Sonia de Villers. Sur France Inter.
Bonjour à tous et bonjour Ruth Elkrief.
Bonjour Sonia.
Soyez la bienvenue sur France Inter, Ruth Elkrief 2022, 2022, ça fait 2022, oui, vous l'avez dit hier soir. Allez-vous être candidate à la présidentielle?
Oui, non, on savait que ça serait un peu le déclenchement et cette réaction. Bon, d'abord, je vais vous dire que je suis très heureuse d'être à votre émission.
Eh ben,
ça fait longtemps que j'avais envie de venir. Parce que
ça fait longtemps qu'on avait envie de vous inviter.
Non, parce que la réflexion sur les médias et la réflexion sur le rôle du journaliste, elle est capitale aujourd'hui. Et oui, nous-mêmes, on est en proie à cette réflexion en permanence. Et on a besoin peut-être de la partager parce que c'est pas très, très simple. Alors, Ruth Elkrief 2022, c'est évidemment à comprendre au troisième, au huitième degré. Il se trouve que ce sera 20h, 22h. Ça veut dire qu'on va suivre la campagne présidentielle, mais ça veut dire aussi qu'on va parler de tout, qu'on va parler de l'actualité et que, vous le savez, c'est très banal de le dire, mais enfin, tout est politique au sens très noble du terme. Et tout va devenir présidentielle, ouais, campagne, bientôt.
Comment va s'appeler l'émission l'année prochaine?
Ah ben, l'année prochaine, on verra bien. Oh là là, c'est très loin l'année prochaine, c'est très loin. Pourquoi vous me parlez de ça? On a tout le temps.
Interview, débat, on va décortiquer, ouais, au fur et à mesure l'interview. Vous voulez vous y installer comment? Parce que vous prenez la place de Darius Rochebain qui, lui, avait installé un format long. Justement, il en avait fait sa signature.
Alors, moi, j'ai aussi un petit antécédent en interview, vous êtes au courant.
Sans blague.
Voilà. Donc en fait, je vais essayer d'être moi-même. Je vais essayer peut-être d'être encore plus sereine, encore plus impertinente et encore plus à l'écoute. Je pense que c'est ce mélange-là, c'est-à-dire que le format va être long. On a à peu près une demi-heure et ça peut être pour des invités en fonction de la situation, de l'actualité du jour, encore plus long puisque sur deux heures, eh bien on peut faire de la place. Et mon idée, sincèrement, c'est peut-être d'essayer moi-même et de diffuser un climat d'apaisement. Ça ne veut pas dire de pas garder un ton peut-être encore une fois impertinent, acéré, ne pas essayer de mettre, comme le dit Albert Londres, le doigt dans la plaie parce que c'est notre vocation.
La question
tout,
quand même.
Le tout est de le faire dans une forme de respect et d'écoute à laquelle moi, auquel je tiens énormément.
Alors, comment on assume le respect, l'apaisement et la longueur quand on est face à Pascal Pro? Parce qu'on ne peut pas se mentir, c'est devenu l'un des aiguillons du PAF, il est sur CNews. Il est le matin, il est aussi le soir. Et manifestement, les chaînes d'infos concurrentes changent leur dispositif à l'antenne en fonction des pics d'audience de CNews.
Oui, mais moi, ça n'est pas mon baromètre. Il a du talent, chacun a ses qualités. LCI ne se met pas en face de CNews de façon, comment dire, ne se lance pas dans un match et dans un face-à-face au dernier sang. Je pense que l'essentiel pour moi, c'est d'être sur les fondamentaux et de faire mon travail et d'être content quand je sors, d'être contente, pardon, quand je sors du studio de l'interview. Alors on verra. Peut-être que dans 3 mois, je vous dirai, mon Dieu, c'est la guerre et tout. Je ne crois pas.
Mais vous reviendrez dans 3 mois.
Je ne crois pas que
ce
soit ça.
Bilan.
Parce que je suis aussi dans une phase personnelle et intérieure qui veut chercher de l'équilibre, qui veut chercher de la profondeur et qui veut chercher un peu de temps et un peu de distance encore plus. Voilà.
Donc, on va y revenir justement parce que vous avez au cours de votre carrière animé des formats extrêmement différents, parfois très innovants. Vous avez essuyé des pluies de critiques, vous avez le cuir épais, vous en avez vu d'autres comme on dit. Alors là, il y a le 20h-22h, il y a aussi dimanche 8 septembre à 20h45, la primaire des écologistes. On écoute Sandrine Rousseau, ça commence sur les chapeaux de roue, hein, les écolos.
Ne perdons pas de vue que nous sommes un pays qui devons partout soutenir les personnes qui se battent contre l'obscurantisme. Enfin, c'est notre ADN. Et ça, quand j'entends humanisme de salon, mais enfin, qu'est-ce que vous faites vous dans votre salon à part discuter avec les trois copains avec lesquels vous êtes? Je veux dire, la France, c'est une terre d'accueil. On a accueilli 50 000 personnes au moment des Boat People. On a accueilli 440 000 réfugiés au moment de la guerre d'Espagne pendant la lutte contre Franco.
Sandrine Rousseau, ancienne porte-parole du parti jusqu'en 2016, face à Éric Piolle, actuel maire de Grenoble. C'est très tendu entre eux, donc on va voir ce qui va se passer.
Puis il y a d'autres candidats, attention, moi j'ai fait un débat et il y a 5 candidats. Je tiens absolument. À ce que tout soit entendu, écouté, ouais. Et le même temps de parole, et soit respecté de la même façon pendant le débat, c'est très important pour moi.
C'est très important. En 2016, vous avez animé le second débat de la primaire des Républicains. C'était à l'époque un partenariat BFM TV, iTélé, ça nous paraît vraiment de l'histoire ancienne. Ouais. En 2017, vous avez animé le second débat de la primaire de la Belle Alliance Populaire, le PS et les partis satellites. C'était là aussi une alliance BFM TV, iTélé. Quel bilan vous tirez de cette médiatisation des primaires ?
Moi, je trouve ça très intéressant. Alors, il y a un débat chez les Républicains, je leur laisse. C'est pas mon problème à moi. Mais comme journaliste, c'est incontestablement un coup de projecteur sur une famille politique, sur des idées. Et moi, j'ai observé que ça passionnait à l'époque les Français, y compris ceux qui ne s'identifiaient pas à ces partis. Parce que...
Souvent fait d'excellents scores d'audience.
Voilà, parce que quand il y a un certain niveau d'échange d'idées, en réalité, on réconcilie un peu les Français avec la politique, avec les idées, avec les projets. Et en fait, on retourne dans les salons et dans les esprits des Français pour leur dire... Et pour réhabiliter le débat aussi, réhabiliter la discussion. Alors c'est à l'intérieur d'une même famille politique, mais en fait, en même temps, on raconte et on se projette. Donc moi, j'ai des très bons souvenirs. Il y a eu aussi ce grand débat à 11 candidats de la présidentielle, pareil.
C'était en avril 2017.
Voilà, qui était un événement majeur.
Coalition BFM CNews,
voilà,
ça ne s'était jamais vu.
6,5 millions de spectateurs. Donc pour moi, cette forme de débat, attention, avec des règles très strictes, encore une fois, de respect d'écoute et d'égalité du temps de parole, bon, c'est une réhabilitation. En fait, chacun d'entre nous, chaque citoyen, peut essayer de se retrouver dans un de ceux qui parlent. Et du coup, encore une fois, on ramène la politique à ce qu'elle doit être, c'est-à-dire l'affaire de tous. Donc moi, j'ai des bons souvenirs. Après, peut-être qu'aujourd'hui, ça n'est... Enfin, en tout cas, la primaire des écologistes, je me suis battue pour que LCI fasse ce premier débat, enfin ce deuxième débat après France Inter, justement. Et ce sera le 8 septembre, et je pense que ça sera de bonne qualité. Moi, ça me passionne, ça m'intéresse. Et on va donner le maximum. Et je pense que les électeurs écologistes, mais pas seulement, les autres électeurs, et je peux vous dire que les Républicains et tout m'ont dit déjà qu'ils allaient bien regarder, parce qu'ils veulent voir comment ça se passe, et ils savent l'intérêt que cela peut susciter chez les Français.
Qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme nouveau débat? On va écouter une archive géniale, c'était un débat Ségolène Royal, François Bayrou, c'était du jamais vu là aussi, et vous étiez aux commandes aux côtés d'Olivier Mazerolles.
C'est une situation inédite dans l'histoire de la Ve République, car jamais jusqu'à présent, dans une élection présidentielle, le second du premier tour n'avait débattu avec le troisième de ce premier tour. Mais nous avons organisé ce débat tout simplement parce qu'à vous deux, vous représentez 16 millions et plus de 16 millions d'électeurs, et il nous paraît utile qu'ils soient informés.
Voilà, alors on va passer à un autre sujet. Bonjour François Bayrou, bonjour Ségolène Royal. Alors, question simple, est-ce que vous êtes finalement aussi euro-compatible qu'on le dit ?
Ségolène Royal était au deuxième tour de l'élection présidentielle. François Bayrou était perdant. Ségolène Royal avait envie de débattre avec lui. Il avait accepté.
Bon, c'était un des gros événements de BFM TV à l'époque, avec la vision d'Alain Veil et de la direction de l'époque. Il y avait Jean-Jacques Bourdin aussi, qui co-animait avec Olivier Mazerolle. Et j'ai appris la tenue de ce débat la veille au soir. Et j'ai dit, s'il n'y a pas de femme pendant ce débat, je pars. Parce que je n'étais pas prévue. Et ben voilà, il y a eu premier bras de fer. Ça a commencé comme ça. Et c'est de toute façon toujours comme ça. Mais c'est ça fait rien. C'est comme ça.
C'est toujours comme ça.
Non, c'est beaucoup, beaucoup moins, heureusement, avec le temps. Là, c'était il y a quelques années. Mais ça me rappelle ça aussi, c'est-à-dire un bras de fer pour s'imposer. Et voilà. Bon, donc c'est un très bon souvenir parce que c'est un grand événement. C'était totalement innovant. Les autres chaînes n'avaient pas eu le courage, entre guillemets, de le faire. Et l'Outsider, à l'époque, avait pris le risque. Donc c'était tout un état d'esprit que moi j'avais beaucoup aimé et dans lequel je m'étais tout à fait auquel je m'étais complètement identifiée à ce moment-là. Alors aujourd'hui, évidemment, tous ces débats-là, on les a vus. On peut certainement inventer de nouvelles choses. Il y a des personnalités dans la campagne qui vont se dessiner. Il y a des candidats qui émergent ou qui sont là déjà dans le paysage. Il y a des esprits brillants qui peuvent s'entrechoquer et donner un peu de relief à cette campagne. J'ai quelques idées, mais je ne vais pas vous les donner tout de suite.
Ouais. J'aimerais bien vous faire écouter Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Elle était interviewée hier chez nos confrères de France Info. Elle était au micro de Marc Fauvel et de Salia Braclia.
Pour l'instant, M. Zemmour n'a pas déclaré sa candidature, donc j'observe qu'il est en droit de continuer sa carrière de journaliste.
Donc s'il se déclare au dernier moment,
effectivement,
il pourra pendant toute la campagne
à l'élection présidentielle, je pense qu'il interromprait de fait sa carrière de journaliste sur la chaîne que vous citez.
Ça veut dire qu'il peut continuer ses commentaires, ses meetings, comme on l'a vu ce week-end, ses discours, tant qu'il n'a pas dit officiellement « je suis candidat », il peut garder...
C'est la responsabilité de la chaîne qui l'emploie, hein. C'est pas de ma responsabilité.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Routel Krief, qui n'allait pas vous présenter
Non, pas du tout. Ça, on a compris que c'était un clin d'œil. Oui. Je pense que c'est la responsabilité de la chaîne. Je pense que c'est aussi un minimum d'honnêteté de sa part, à un moment donné, d'être clair et de poser les cartes sur la table. Mais si j'en crois les informations que Paul Larouturou nous a données hier, il va peut-être se déclarer assez rapidement dans les deux mois qui viennent.
En attendant, on est bien d'accord qu'on assiste à une situation inédite. Il bénéficie d'un temps de parole absolument illimité, d'une heure d'émission quotidienne sur CNews, qui marche très bien. Vous avez été en face d'ailleurs à une époque sur BFM. Et il va être invité absolument partout. En tout cas, il est déjà retenu sur de nombreux plateaux pour la promotion de son livre.
Oui, comment vous dire, c'est pour le moins habile de sa part, peut-être cynique, mais en tout cas, c'est la chaîne effectivement qui doit décider avec lui, et c'est lui-même qui, en toute sincérité, doit pouvoir être franc et mettre carte sur table et ne pas jouer sur les deux tableaux. Après, la question, c'est que il est polémiste, il est provocateur et tout, mais est-ce qu'il fait des interviews? Est-ce qu'il est dans une situation d'intervieweur? Si ce n'est pas le cas, c'est un peu différent, c'est un polémiste. Moi, je ne veux pas défendre le fait qu'il reste, franchement, c'est son choix et c'est le choix de cette chaîne. Mais ce que je veux dire, c'est que la difficulté, c'est quand vous interviewez, c'est de savoir qui vous interviewe et où vous êtes. Et si vous n'êtes pas clair, alors effectivement, ça pose un problème. Mais maintenant, les Français, j'ai l'impression qu'ils ont compris qu'ils pouvaient aller en politique assez rapidement. Et du coup, est-ce qu'ils le voient toujours comme journaliste? Je suis même pas sûre. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être clarifier les choses. C'est la responsabilité de sa chaîne, je ne peux pas dire autre chose.
Et du CSA, probablement. J'aimerais bien qu'on parle un instant de la façon dont le PAF a muté, des nouvelles concurrences qui se présentent à vous, journaliste politique, animateur de débats, intervieweur, au cœur des sujets de société, des mutations de la société française. Hier soir, Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste, a mis en place une nouvelle une nouvelle rubrique qui s'appelle FDP, les flingueurs du PAF ou les fils de pute, vous les comprenez comme vous voulez. Je vous fais écouter un petit extrait. Ils ont reçu le professeur Raoult, ils étaient en duplex. L'un de ses intervenants s'appelle Fabrice Divisio, il est avocat, il est anti-vax. Il refusait de montrer patte blanche. Qu'à cela ne tienne, on lui a installé dans la rue, à l'extérieur du studio, un pupitre, un micro et des lumières.
Fabrice, vous, on sait que vous êtes contre, mais déjà, vous vouliez pousser aussi un petit coup de gueule, parce que je crois que vous recevez beaucoup de menaces.
Ben, vous voyez, moi, je suis dans la rue, là, avec deux agents de protection. Alors que, bon, je crois qu'on se connaît un peu maintenant.
Bien sûr.
Les mots font si peur que ça. Qu'est-ce qui fait peur?
Vous avez reçu des menaces, Fabrice?
Oui, absolument, absolument.
Quel type de menaces?
Bon, des menaces de dire, on sait où t'habites, tes positions de merde, tes pro-virus. Ouais. Je suis pro-contamination, que, effectivement, je suis un assassin. C'est ça, quand même.
Alors, il y a autour de la table Elisabeth Lévy, qui a déjà son rond de serviette chez Pascal Pro sur CNews, Laurent Alexandre, cofondateur de Doctissimo, Olive Olive, un gilet jaune très, 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 très à droite, Jean Messia, qui vient de l'extrême droite, Louis Boyard, plutôt très gaucho. Est-ce que c'est nouveau pour vous qu'il y ait une forme de concurrence
Je vous arrête parce que pour moi, c'est pas de la concurrence.
C'est pas de la concurrence.
Non, c'est-à-dire que là, on est dans une phase, une forme de divertissement, pardonnez-moi, une forme de populisme médiatique, voilà, c'est une autre expression. Je vous rappelle
que quand même, il y a quand même un nombre
considérable. Il y a beaucoup de monde qui regarde. Ah oui, oui.
Oui, bien sûr. Et deux membres du gouvernement qui s'y rendent.
Oui,
dont des ministres.
Moi, je n'ai pas à juger ça.
Qui ont des portefeuilles régaliens.
D'accord. Non, moi, vous savez quoi? Moi, je suis pas une donneuse de leçons. J'ai pas envie de faire de la morale. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne suis pas en position. Ça n'est pas mon rôle. Moi, ce que je veux faire, c'est essayer de faire le travail que je dois faire, c'est essayer d'avoir la distance nécessaire, de donner de l'analyse et de donner de la convivialité et aussi du plaisir et aussi de la compréhension. Et le reste, chacun fait ce qu'il veut. Ça veut pas dire que je ne pense pas à certaines choses. Ça veut pas dire que je vais regarder ceci ou cela. Mais moi, je ne me pose pas en censeur. Je sais pas si vous avez vu, mais je ne m'exprime pas sur les réseaux sociaux à titre personnel. Je n'ai jamais un avis personnel. Je considère qu'être journaliste aujourd'hui, et notamment en campagne présidentielle, mais pas seulement, c'est tout ce qui est dit à l'antenne. Tout ce que je dois assumer, c'est ce que je dis à l'antenne.
Alors, vous
je
en n'ai dites pas, des choses
je n'ai pas,
à l'antenne.
Oui, bien sûr, mais ça, je l'assume. Mais le reste, je n'ai pas à exprimer des avis personnels, des choses. Alors, il y a des causes qui me tiennent à cœur, on peut en parler, les droits des femmes. Là-dessus, je suis et je serai toujours debout sur les droits des femmes avec une vision la plus universaliste et la plus...
Quand vous dites ce que je pense, je le dis à l'antenne et je l'assume. Souvenez-vous de la précédente présidentielle.
Non, attendez, j'ai pas dit ce que je dis et ce que je pense, je le dis à l'antenne. Non, je dis ce que je dis à l'antenne est la seule chose que je m'autorise à publier. C'est pas tout à fait pareil.
Non, c'est vrai, vous avez raison.
Ce que j'ai dit, ce que je pense, je le garde pour moi, pour mes amis, pour mes proches. Et s'il y a une cause très particulière à laquelle je tiens et sur laquelle j'accepte de m'engager, c'est par exemple les droits des femmes. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres parce que je considère que je dois être quelqu'un qui reçoit, essaye de comprendre, analyse, réexplique aux autres, décrypte. Et donc, je n'ai pas à faire interférer ma subjectivité, ou en tout cas le moins possible.
Vous savez que c'est une critique qu'on vous a adressée plusieurs fois.
Elle est totalement injuste.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est venue de la droite comme elle est venue de la gauche, elle est venue de l'extrême droite après une interview de Marine Le Pen.
Parfait.
Nicolas Sarkozy vous a littéralement collé au mur pendant une interview. Pendant la dernière présidentielle, vous commentiez toute l'affaire Fillon, vous avez été aussi beaucoup critiqué pour avoir laissé sortir des commentaires qui laissaient penser que vous condamniez les méthodes du canard enchaîné.
Non,
ou que...
mais c'était faux. Si on revient là-dessus en un mot, il y a eu beaucoup, beaucoup de mauvaise foi de la part d'un certain nombre de personnes, y compris des journalistes, enfin pas des journalistes, des humoristes, disons. Mais dans cette affaire Fillon, j'ai eu une phrase peut-être maladroite, mais un peu sortie du cœur, parce que j'avais vu Pénélope Fillon assister au meeting de son mari et je l'ai trouvée totalement prostrée. Et d'une certaine façon, je me suis dit, mais en fait, elle est au courant de rien et elle est en train de tout prendre dans la figure. Mais c'était faux. Et donc, il y a eu une forme de... J'ai exprimé
d'empathie.
Quelque chose qui était de la forme de l'empathie et c'était une erreur. Voilà, vous voyez, la preuve, c'est que je le reconnais. En revanche, quand j'ai interrogé le journaliste du Canard Enchaîné, qui est un ami par ailleurs, je me suis juste posée comme... comme pour avec chaque personne, comme celle qui contredit, comme celle qui vient en portant la contradiction. Et c'est, alors, si vous voulez, ce qui est fou, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'observateurs, mais y compris parmi nos confrères, et ça m'inquiète, qui oublient de faire la différence entre un journaliste et un éditorialiste. Mmh. Quand on est journaliste et qu'on porte la contradiction, on fait son métier, c'est ce que vous faites. Mais ça n'était pas un avis sur ce que faisait le Canard enchaîné. C'était, bah alors, et si on vous dit que vous participez à désinguer, etc., cette famille politique, bah c'est mon rôle. Mon rôle, c'est de ne pas, c'est de venir porter la contradiction, c'est pas d'accepter ce que, et y compris du journaliste du Canard enchaîné, qui est par ailleurs un ami.
Ruth El-Krieff, 2022, donc c'est reparti pour une nouvelle campagne. J'aimerais bien que vous reveniez en cours d'année, justement, qu'on fasse le bilan de cette campagne et de ce magazine qui vient à peine de commencer. Merci d'avoir été l'invité de l'Instant M.
Merci beaucoup, merci à vous.